Chapitre 57e. La comtesse prend les choses de haut. Le lendemain, à une heure précise, la voiture de la comtesse vint prendre Vasilissa, sans sa mère. Tel était l'ordre précis de la comtesse, que la figure de Madame Gorov remplissait d'un insurmontable ennui. Maritsky sauta sur un drojki et arriva en même temps qu'elle au perron de la maison Koumiassine. La porte s'ouvrit, ils entrèrent, et pendant qu'un domestique allait les annoncer, le jeune officier eut le temps de murmurer à sa compagne « Ne cède pas, je t'en prie. » Comme ils traversaient le salon bleu, Zina apparut dans l'embrasure d'une porte et leur fit un signe muet de protection et d'amitié. Avant qu'ils eussent pu répondre, elle avait disparu et un moment après, ils se trouvèrent en présence de la redoutable comtesse. Cette fois, Vasilissa ne fit aucun mouvement pour s'approcher de la main qui lui avait montré la porte le jour précédent. Après sa révérence, elle attendit l'invitation de s'asseoir que lui fit aussitôt sa tante. Quand elle n'était pas en colère, la comtesse était encore plus polie avec ses ennemis qu'avec ses amis. Un silence fort embarrassant s'était établi. La noble dame adressa la parole à Maritsky. « Eh bien, monsieur, dit-elle avec une sorte d'enjouement, avez-vous obtenu quelque chose de cet enfant rebelle ?» Un geste respectueux, mais négatif, fut la réponse. Vasilissa, fort pâle, mais toujours résolue, prit la parole. « Ma tante, acceptez les expressions de repentir que je vous ai offertes et que je suis prête à réitérer. Croyez à ma sincérité et ne me demandez pas plus de paroles que mon cœur n'en peut ratifier. » Elle levait sur la comtesse des yeux si pleins de tendresse, de prière et en même temps de dignité féminine que Maritsky se tint à quatre pour ne pas se jeter à ses pieds. La comtesse fut un moment sans répondre. « Alors, dit-elle enfin, je dois comprendre que vous aimez mieux renoncer à votre mariage que d'humilier votre orgueil. J'aimerais mieux renoncer à mon mariage que de consentir par intérêt à faire une démarche que désavoue ma conscience. Je puis ne jamais épouser l'homme que j'aime, dit fièrement Vasilissa, mais si je l'épouse, ce sera le front haut et la conscience pure de tout mensonge, de toute hypocrisie. » Hypocrisie ? La comtesse n'avait pas pensé à cela. Peut lui importer au fond ce que penserait Vasilissa. Il s'agissait uniquement d'une concession matérielle, semblable à celle qu'elle avait exigée à Koumiassina, alors que sa nièce malade perdait ses forces tous les jours dans un isolement malsain et dangereux. Il y aurait donc hypocrisie à proférer des paroles de regret que désavouerait le cœur? Évidemment oui. Alors fallait-il persévérer jusqu'au bout, refuser son témoignage, laisser flétrir une innocente, parce qu'elle n'aurait pas voulu être hypocrite? Ces réflexions entraînaient bien loin la comtesse, et cependant le temps pressait, car sa nièce et Maritsky attendaient ses paroles. « Votre tort, dit-elle enfin, est précisément d'être incapable de contrition. » Vasilissa baissa la tête. Sur ce chapitre-là, en effet, la contrition lui était impossible. « Mais madame, dit Maritsky, en cette circonstance, vous ne songez qu'à Mademoiselle Gorov, et il me semble que j'y suis aussi pour quelque chose. En ne faisant pas les démarches qui peuvent amener le consentement de mes parents, vous punissez votre nièce de ses torts réels ou non envers vous. Mais moi, qui ne vous ai rien fait, contre lequel vous n'avez pas de grief, pourquoi voulez-vous m'empêcher de me marier selon mon cœur ? Eh bien, épousez-la ! S'écria la comtesse au comble de la colère. « Épousez-la telle qu'elle est, décriée, déshonorée, et vous serez malheureux toute votre vie avec elle. Une enfant aussi ingrate ne peut être qu'une mauvaise femme, une mauvaise mère. Épousez-la malgré vos parents qui en mourront de chagrin, sans ma bénédiction, sans celle de Dieu qui a dit « Tu honoreras ton père et ta mère. » Et puissiez-vous être puni de votre ingratitude par celle de vos enfants ?» Tout cœur russe est superstitieux. Combien plus celui d'une jeune fille malheureuse depuis longtemps déjà. Vasilissa s'est élevée au mot déshonoré, blanche, roide, une main sur son cœur. Elle avait écouté les terribles paroles de sa tante, qui ressemblaient à une prophétie ou à une malédiction. « Ma tante a raison, dit-elle à Maritsky, plein d'angoisse. Je ne peux obtenir sa bénédiction. Celle de vos parents vous manquerait de même. Je ne veux pas vous porter malheur. Je ne serai jamais votre femme. Oubliez-moi. Adieu. » Elle fit un pas et tomba sans connaissance. Maritsky la souleva dans ses bras et la porta sur le canapé, et la comtesse lui fit respirer un flacon de sel qui ne la quittait pas. En ce moment, un coup de sonnette retentit en bas, mais on n'y fit pas attention dans le salon bleu. Vasilissa ouvrit enfin les yeux. et fit sur-le-champ le mouvement de se lever pour partir. D'un geste plus tendre qu'impérieux, sa tante l'obligea de rester couchée. « Je souhaite, madame, » dit Maritsky à voix basse, « qu'au jour du jugement, vous et moi, nous puissions nous présenter devant notre Créateur avec une conscience aussi droite, aussi pure que celle de cette malheureuse enfant. Elle entrera au ciel avec la couronne du martyr. » La comtesse ne répondit pas. Les dernières paroles de Vassilissa l'avaient vivement frappée par leur noblesse et leur élévation. Le travail inconscient, commencé depuis la veille dans son esprit troublé, s'acheva tout à coup. Elle hésita une seconde encore. Céder, c'était plier son orgueil, faire acte de soumission. Elle, comtesse Koumyassine! La pensée du jugement que venait d'évoquer le jeune homme l'emporta soudain vers le ciel. Aussi sincèrement qu'à Pâques, alors qu'elle faisait acte de religion d'un cœur fervent et contrit, elle offrit à Dieu le sacrifice de son orgueil. « Vous avez raison, monsieur, » dit-elle, non sans émotion. « Je n'ai pas la prétention d'être infaillible. Que Dieu soit juge entre elle et moi, j'ai cru bien faire. Mais elle vient de montrer un courage et une abnégation qui peuvent racheter bien des défauts. Je désire que vous soyez heureux, » ajouta-t-elle, et une larme tomba de ses yeux sur la joue pâlie de Vassilissa. Celle-ci se souleva aussitôt et se jeta dans les bras de sa tante qu'elle serra étroitement sur son cœur. « Ah, que je vous aime, que je vous aime !» lui dit-elle à plusieurs reprises, pendant que Maritsky baisait la main de la comtesse avec un sentiment de respect sincère et d'affection véritable. Chapitre 58e. Zina fait des siennes. Quand ils eurent tous trois repris un peu de sang-froid, au moment où la comtesse allait entamer une homélie, un bruit de pas se fit entendre tout près, et ce n'était pas ceux d'un domestique. La noble dame arrêta les paroles sur ses lèvres pour les remplacer par d'autres, moins indulgentes peut-être, à l'adresse de l'importun, quand, ô surprise inouïe, elle vit sa fille, sa propre fille, qui venait sans être appelée et suivie du prince Chourov, encore. Cette fille irrévérente se précipita dans les bras de sa mère sans y avoir été conviée et la couvrit de baisers en s'écriant « Maman, ma chère maman, que vous êtes bonne et que nous vous aimons tous !» Elle l'avait écouté. Zénaïde avait écouté. Oh, miracle d'horreur! Mais la comtesse n'eut guère le temps de proférer des reproches, car Chourov lui avait pris les deux mains et lui répétait, tout rouge de joie et de timidité, « Vous avez une belle âme, comtesse, une âme céleste, vous êtes un ange. »« D'où tombez-vous, prince ?» fit la comtesse, moitié contente du compliment, moitié fâchée de l'intrusion. « On ne vous a pas annoncé ?» Elle jeta un regard de reproche à sa fille, qui répondit avec une naïveté trop jolie pour n'être pas un peu feinte. « C'est moi, maman, qui n'ai pas laissé monter le domestique. Je savais que vous étiez en affaires. J'ai préféré amener le prince moi-même. » La pauvre comtesse n'y était plus du tout, du tout. Sa fille amenait le prince et l'empêchait les domestiques d'annoncer. Mais c'était le renversement complet des choses d'ici-bas. Elle se promit de remettre dans le droit chemin Zénaïde que ce voyage avait par trop émancipé. Dans sa joie, le prince secouait à le rompre le bras de Maritsky, et il avait tout à fait oublié de faire ses compliments à Vassilissa. Celle-ci, souriante et nageant dans une félicité céleste, s'approcha doucement de lui et se hasarda à poser le bout du doigt sur son bras. Chourov se retourna tout d'une pièce. « Prince, lui dit-elle, je ne vous avais pas encore vu. Je n'ai pu vous remercier. Remercier de quoi ? » s'écria la comtesse qui avait l'ouïe excellente. Les quatre jeunes gens s'entre-regardèrent et restèrent quoi ? Vassilissa se rappelait, mais trop tard, la recommandation de sa cousine et s'adressait déjà les plus justes reproches. Zina prit bravement son parti. « Maman, dit-elle, ma cousine remerciait le prince de m'avoir si généreusement aidé à la faire partir de chez nous. »« À la faire partir ? Mais c'était donc vrai ? » s'écria la comtesse bouleversée. « Ce qui est vrai, dit le prince, c'est que sans mes chevaux et mon cocher que j'avais fait venir exprès d'une autre terre, Mademoiselle Gorov eût difficilement quitté votre domaine. Voilà tout. Vous trouvez peut-être que ce n'est pas assez, fit la comtesse avec humeur. Alors vous, ajouta-t-elle en tournant vers sa fille son visage couvert d'horreur. Alors moi, maman, j'ai prié le prince de m'aider, parce que toute seule, je ne pouvais pas tout arranger, vous comprenez? Mais quand, comment avez-vous pu, à mon insu? Oh, maman, nous avons causé en nous promenant et puis... « Nous nous sommes écrits. » Elle prononça ces derniers mots avec une mutinerie si adorable que les fiancés, heureux et la main dans la main, ne purent se défendre d'échanger un regard et un sourire. Chourov, la tête basse, avait l'air d'un cheval qu'on étrille. « Écris, vous ?» murmura la comtesse. Elle se demanda si c'était elle qui perdait la raison, ou sa fille qui devenait folle. Le prince, en ce moment, sourit malgré lui, comme s'il ne comprenait plus l'énormité de son crime. Les yeux de Zénaïde brillaient comme deux étoiles sournoises sous ses paupières modestement baissées. « Oh, une lettre seulement, c'est-à-dire lui une et moi une, voilà tout, ma chère maman. »« Cela ne vous suffit pas, » dit amèrement la comtesse. « Est-ce qu'il n'aurait pas aussi mis le feu à ma grange, par hasard ?»« Non, maman, ça, c'est moi toute seule. » fit Zina, avec un petit mouvement de tête qui dénotait une sorte de satisfaction intime. « Mon Dieu, comment sortirons-nous de tout cela ?» murmura la comtesse, en levant ses bras et ses yeux éperdus vers le ciel. Zénaïde prit la main du prince et le poussa doucement vers sa mère. « Maman, » dit-elle, et elle s'arrêta, tirant un peu sur le bras de Chourov. « Bénissez-nous, » murmura celui-ci en s'agenouillant avec la jeune fille devant la comtesse ébahie. La surprise et la joie noyèrent le reste dans l'esprit passablement troublé de la noble dame, et la résistance disparut dans le tourbillon. « Ah, de tout mon cœur, mes enfants !» s'écria-t-elle. Pendant une minute, tout le monde s'embrassa. Le comte entra à ce moment, annoncé par le cliquetis de ses éperons. Sa femme lui fit part des événements qui venaient de s'accomplir, et lui, toujours ami de l'ordre et de la paix, il sut s'arranger pour avoir l'air suffisamment surpris, bien qu'un petit entretien qu'il avait eu 10 minutes auparavant avec les nouveaux fiancés lui eût épargné la secousse que la comtesse espérait lui faire éprouver. On envoya chercher Madame Gorov et même Mademoiselle Bochet, que la comtesse eût remercié amicalement de l'attachement qu'elle avait témoigné à son ancien élève dans la peine, et la journée s'écoula, pleine de projets, de rires et de valses à quatre mains. Les jeunes couples poussèrent la folie jusqu'à danser des quadrilles au son d'une vieille pendule à musique, pendant que la comtesse, souriante et calmée, les regardait en faisant le devis de deux superbes trousseaux pareils pour les jeunes mariés. Madame Maritsky devait prétendre à un bien autre trousseau que Madame Tchoudessov. Il fallait 12 douzaines de tout. Cette jeunesse amoureuse et gaie lui rappelait d'ailleurs le temps de ses fiançailles avec le comte, et son mari fut traité ce jour-là avec une grâce toute particulière. L'heure du dîner arriva. Le comte avait fait monter du vin de champagne pour arroser, à la santé des nouveaux mariés, un menu super fin commandé au club anglais. Seule, Mademoiselle Justine, absente depuis le matin, ignorait ce qui s'était passé. « Tout le monde se marie, mademoiselle, » lui dit Zina en courant à sa rencontre. « Tout le monde, excepté vous. Lisa épouse Alexis Maritsky, j'épouse le prince Chourov. Et vous, qui épousez-vous » « Monsieur Tchoudessov, » jeta Vassilissa en passant derrière sa cousine. « Je ne connais que lui qui soit digne de mademoiselle Justine. Et d'ailleurs, j'ai idée qu'ils se connaissent bien mieux que nous autres, simples d'esprit, ne le supposons. « J'espère qu'ils auront des enfants, beaucoup d'enfants qui leur ressembleront, » ajouta Zénaïde. « Amen, » fit le prince, qui pourtant n'était pas méchant. Justine, livide de colère, avait écouté tout cela en souriant d'un air désagréable. Elle prenait fort bien la plaisanterie. « Vous croyez rire, » pensa-t-elle, « mais nous verrons bien si votre prédiction ne s'accomplit pas. » Chapitre 59e, conclusion. 8 jours après, Maritsky épousa Vassilissa, que le comte et la comtesse conduisirent à l'hôtel, au milieu de l'assemblée la plus brillante que l'on eût pu recruter à cette époque de l'année. Chourov avait décidé avec Zénaïde qu'ils se marieraient chez eux, à la campagne, et quelques jours après ce premier mariage, tout le monde partit pour Koumiassina. Dimitri fut le plus heureux des petits garçons en apprenant que son bon ami, le prince, allait être son beau-frère et qu'il aurait le droit de le tutoyer. La veille de son mariage, Zina se promenait avec lui dans la grande allée où ils avaient comploté ensemble la fuite de Vassilissa. « Cela me fait pourtant de la peine, » lui dit-elle en l'embrassant, « de te laisser ici, mon petit homme. Tu vas être bien triste et bien seul. »« Oh !» répondit fièrement l'enfant, « dans 6 semaines, j'entrerai au corps des pages comme pensionnaire. Je suis ignorant comme une carpe avec mes 3 langues étrangères. J'aurai assez à faire de m'instruire, et pendant les vacances, tu me prendras bien avec toi, dit. » fit-il en serrant le bras de sa sœur sur son petit cœur gros de larmes, malgré sa brave contenance. « Toujours, mon frère chéri, et en ville, tu passeras tous tes congés avec nous. »« Oh oui, maman a bien assez à faire avec sa charité, elle n'aura pas besoin de moi. » Le lendemain, Zina quitta le nom et la terre des Comiacines pour ceux des Chourov. « Voulez-vous que je fasse changer en rose les tentures de la chambre bleue ?» lui avait demandé son fiancé. « Pourquoi ?» répondit la vaillante créature. « Je ne crains pas les souvenirs, ils n'ont ni corps ni âme. » « Et puis le bleu me va bien, » ajouta-t-elle, avec la coquetterie enfantine qui lui donnait une grâce si piquante. La comtesse, de plus en plus absorbée dans sa charité, comme disait son fils, ne se permet plus que 3 ou 4 mois de vacances, sur lesquels elle passe environ 6 semaines à Chourova. Son gendre, le modèle des gendres, car il a su trouver le moyen de vivre avec elle sans se quereller, lui faisait un jour les honneurs de son potager. « Ah, vous avez mis des pommiers dans ce trou-là » dit-elle. « Moi, j'y ai remis des cerisiers. L'emplacement était fait exprès. Mais vous vous y entendez mieux que moi, naturellement. Seulement, vos pommiers ne vous donneront jamais de pommes, tandis que des cerisiers... » L'autre jour, en examinant les châssis pour le forçage des primeurs, « Vous faites des petits pois. Quelle idée baroque. À quoi bon ? Si c'était des asperges, je comprendrais cela. Nous forçons les asperges à Comiacina, et nous en avons toute l'année, mais des petits pois. Comme si l'on n'avait pas l'été pour en manger. D'ailleurs, c'est votre affaire. Mais c'est bien de l'argent dépensé pour un piètre résultat. » Lorsqu'elle quitte Chourova, le prince, qui adore les petits pois, pousse un soupir de soulagement et télégraphie immédiatement au Maritsky de venir. « Ça renouvelle l'air, » dit Zénaïde avec sa malice ordinaire. Les enfants des deux cousines grandissent ensemble et ne forment qu'un seul groupe, toujours remuant et joyeux, de garçons robustes et de fillettes spirituelles. « Il y a des moments, » dit Vassilissa, « où je ne puis plus reconnaître les miens. » Tout ce petit monde adore l'oncle Dimitri, car Dimitri n'a pas tardé à être promu au grade d'oncle. Il a attendu plus longtemps sa promotion de sous-lieutenant, mais toute chose arrive en son temps, et il vient d'obtenir les honneurs d'une brillante sortie du corps des pages. Sa nouvelle dignité ne l'empêche pas de découper toute espèce de chose dans du papier, à l'ébahissement perpétuel de ses neveux et nièces, dont aucun ne possède ce talent particulier et assez rare. Mademoiselle Beauchet élève les enfants de Vassilissa. Miss Junior est retournée en Angleterre avec une jolie pension. Zénaïde lui devait bien cela. On demandait un jour à cette dernière pourquoi elle n'avait pas, à l'exemple de Vassilissa, gardé son ancienne institutrice pour élever ses enfants. « J'ai eu trop peur, répondit-elle, que mes filles n'eussent mon caractère, et dans ce cas-là, ou Miss Junior aurait complètement perdu la raison à mon service, ou bien mes filles auraient fait des leurs, tout comme j'ai fait des miennes. » Le prince, ravi, n'a pas ses yeux pour la regarder quand elle rit de cette façon discrètement railleuse qui donne à sa physionomie un charme irrésistible. Les enfants sont tous charmants, mais on les cache quand la comtesse vient dîner, car elle ne peut pas les tolérer plus de 5 minutes. « Ce n'est pas ainsi que j'ai élevé les miens, » dit-elle parfois. « Autre temps, autre mœurs, mais l'ancien système valait mieux. » Dans ces moments-là, la princesse et son frère tâchent de se regarder sans rire. La prédiction de Vassilissa s'est réalisée. La princesse, qui ne désirait pas voir Justine vivre et mourir dans la maison de sa mère, a sollicité et obtenu pour cette personne capable la direction d'un asile municipal, y compris le chauffage, l'éclairage et le logement. Justine était devenue un bon parti et Tchoudessov l'a épousée. Seulement, on ne peut pas tout avoir. Il a dû renoncer à se payer une petite cocotte, car sa femme est d'une jalousie à faire frémir. Au grand regret du prince, ils n'ont pas d'enfants. « J'aurais été curieux, dit-il parfois, de voir ce qui aurait pu sortir de cette union-là. Et de fait, c'eût été curieux. Mais pour cette fois, la Providence a pris pitié des pauvres humains, et ces braves gens n'auront pas de postérité. » Ainsi s'achève Les Comiacines d'Henri Gréville.